Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Élisée et le miracle de l'huile. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1, une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va, vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils de ceux qui te restera. Amen. » Élisée, c'est donc un prophète de l'Éternel. Il a été appelé par Dieu, nous en avons parlé la semaine dernière. Mais même s'il a reçu l'onction pour être prophète, il a eu tout un temps où il était dans l'ombre d'Élie. Et en fait, on n'a pas entendu parler d'Élisée plus que cela pendant toute la période où il a accompagné Élie, sauf qu'il y a un détail qui est mentionné dans la Bible, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Entre guillemets, il était à son service et il était disponible pour tout ce qu'Élie avait besoin. Ça, c'est un temps de préparation, mise à l'écart, où il va apprendre à être au service de Dieu, et jusqu'au départ d'Élie vers le ciel, Élisée va rester en arrière-plan, il va accepter de faire des humbles services, et si aujourd'hui, vous n'acceptez pas de faire des petits services, si pour vous c'est trop peu de choses, eh bien vous n'êtes pas encore prêt pour les services que Dieu veut vous confier. La Bible dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai de plus grandes. » Donc Élisée a été éprouvé dans les petites choses et Dieu lui en a confié de plus grandes. Élisée aussi a fait une demande assez audacieuse avant que Élie monte au ciel. Il a dit au prophète, il a demandé une double part de l'esprit qui était sur Élie pour l'avoir dans sa vie. C'est-à-dire qu'il avait soif de la présence de Dieu. Et Dieu répond à la soif. Est-ce que nous avons soif de la présence de Dieu ce matin? Parce que si nous n'avons pas soif, ben voilà, Dieu répond à la soif. Donc si nous n'avons pas soif, eh bien nous nous contentons de ce que nous avons. Mais au moment où nous avons soif, où nous faisons des prières audacieuses, ben Dieu répond. Dieu répond à la soif. Et il accomplit en fait, Élisée au travers de son ministère, deux fois plus de miracles qu'Élie, puisque 8 miracles sont rapportés pour Élie et 16 pour Élisée. Et j'aimerais justement voir un de ces miracles que Élisée a fait sous l'onction du Saint-Esprit. C'est le miracle de l'huile. Alors le miracle, qu'est-ce que c'est? Si on peut définir un miracle, une définition simple d'un miracle, c'est ce que la science ne peut pas expliquer. Ce que la science ne peut pas expliquer. Un miracle, c'est une intervention divine qui est inexplicable avec les lois naturelles. Et comme l'homme raisonne et voudrait toujours tout expliquer, il cherche encore des raisons à ce miracle ou des explications à ces miracles, mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut abandonner à Dieu et croire dans le miracle. C'est toute la différence entre connaître avec sa tête et croire avec son cœur. Parce que le miracle, c'est pas juste au niveau de la connaissance, mais c'est au niveau de la foi. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu est le Dieu du miracle? Si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Donc, en fait, le miracle est relié à la foi. Élisée, c'était un homme de foi. Nous devons être remplis de foi et nous attendre au miracle de Dieu. Alors, le premier point, c'est l'épreuve de cette femme, puisque, malgré tout, c'est une croyante, et elle passe par une épreuve assez difficile, vu qu'elle a perdu son mari est donc décédé d'une manière tragique, il a encore des fils assez jeunes, donc il était pas trop âgé, mais il a été repris, comme cela, il est parti dans l'éternité. Il faut toujours être prêt, nous ne savons pas quel sera notre dernier jour, c'est pourquoi il faut toujours avoir fait la paix avec Dieu et savoir où nous allons après la mort. Cet homme était croyant, il avait donné sa vie à Dieu, donc il est parti auprès de Dieu. Son âme est partie auprès de Dieu, son corps est retourné dans la poussière, bien sûr. Mais c'est l'âme qui va survivre après la mort qui a une destinée éternelle. Et le texte dit que cet homme était croyant et qu'il craignait Dieu. Donc il aimait Dieu, il servait Dieu, mais l'adversité l'a frappé et il est mort. Donc l'adversité nous frappe, croyant ou non croyant, la vie est brève, il nous faut être toujours prêts à partir pour l'éternité. Aujourd'hui nous sommes là, c'est que nous avons encore une mission à accomplir. C'est ce que Paul expliquait. Dans sa pensée, Paul disait que, pour moi, il dit, il est préférable que je m'en aille et que je parte au ciel. Mais il dit, à cause de vous et du ministère, il faut que je demeure encore sur cette terre pour un certain temps, jusqu'à ce que Dieu le reprenne. Donc, il est dans cette dimension que tant qu'il est sur la terre, il est encore disponible pour faire les œuvres de Dieu et à l'écoute du Saint-Esprit. Eh bien, cet homme, donc, est parti au ciel. Et la différence, en fait, parce que nous allons tous partir d'une manière ou d'une autre dans l'éternité, et nous connaissons tous l'adversité, la différence c'est comment allons-nous traverser l'adversité. Si nous sommes chrétiens, nous avons une espérance que Dieu dirige toutes choses et qu'il nous accueillera dans sa gloire. Mais si nous ne sommes pas chrétiens, si nous n'avons pas d'espérance, eh bien c'est comme si la vie s'acharne contre nous, nous prenons des coups, nous ne comprenons pas, mais parce que nous ne comprenons pas que Dieu est souverain et qu'il est derrière toutes ces choses. Donc déjà, nous devons croire que Dieu est à l'œuvre. Et même dans cette épreuve, je remarque que cette femme qui est croyante, elle a perdu son mari qui est croyant, eh bien, elle a la bonne attitude. Elle va avoir l'attitude de la prière et elle va se tourner vers Élisée pour crier à l'Éternel. Alors, le verbe « crier » s'est traduit « implorer »,« supplier » ou « appeler au secours ». C'est traduit le verbe hébreu de tous ces domaines. Cette femme est dans la détresse. Mais sa première pensée, c'est de crier à Dieu et de demander le secours à Dieu. Et pour ça, elle s'adresse donc au prophète Élie, qui est l'homme de Dieu. De quoi avons-nous le plus besoin dans la détresse? Nous avons besoin d'un secours divin. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc si vous êtes dans la détresse, le seul secours qui ne manque jamais, c'est celui qui vient du ciel. Il vient d'en haut. C'est pourquoi vous pouvez, comme cette femme, crier à Dieu, et lui, il entend votre prière, et il répondra. Je remarque aussi une accumulation d'épreuves dans la vie de cette femme, parce que non seulement son mari est mort, c'est déjà tragique, sans compter qu'à l'époque, la plupart du temps, c'était le mari qui ramenait l'argent à la maison, puisque la femme, dans la grande majorité des cas, s'occupait du foyer, de l'éducation des enfants et travaillait dans la maison, mais ne gagnait pas d'argent. Donc, ça fait des revenus qui s'arrêtent et en plus, elle avait des dettes. Elle avait de nombreuses dettes, peut-être qu'ils avaient acheté une maison, qu'ils avaient fait des emprunts et elle ne pouvait plus rembourser ses dettes. Donc, la mort vient frapper dans sa famille, elle est acculée par des dettes qu'elle ne peut pas payer et le pire encore, c'est que les créanciers sont venus à la maison pour demander que ses enfants soient vendus comme des esclaves, pour payer une partie des dettes. Et là, on voit que les épreuves, c'est pas une épreuve qu'elle a, mais c'est trois épreuves qui s'accumulent sur sa vie. C'est comme s'il y a tout qui lui tombe en même temps sur le dos. Et parfois, les épreuves s'enchaînent. Dieu permet parfois des situations compliquées, des épreuves qui s'enchaînent. Il y a un texte qui dit dans l'Ancien Testament qu'un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais Abraham, il était tranquille. Abraham n'a jamais demandé à être mis à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un aimerait bien être mis à l'épreuve ce matin? En général, ce n'est pas notre demande. Ce n'est pas notre prière. Mais le texte dit que Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Et effectivement, il va lui demander son fils. Et il va y avoir l'épreuve de la foi. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Et vous savez combien il était prêt à livrer son fils en sacrifice, mais que Dieu l'a arrêté. Mais en fait, c'est Dieu qui a décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Donc à un moment donné, bien, il faut accepter que Dieu nous éprouve. Et nous ne comprenons pas toujours le sens sur le moment. Mais faisons confiance à Dieu, parce que s'il nous éprouve, c'est pour faire sortir de nous quelque chose de bon. La foi, en fait, de cette femme va être éprouvée dans ce temps d'épreuves terribles. Et c'est précisément dans l'épreuve que notre foi doit s'exercer. Ne croyez pas que la foi, c'est juste quand tout va bien. Notre foi, en fait, doit se développer, se fortifier dans les épreuves. On le voit partout dans l'Écriture. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a décidé de faire une statue à son effigie et il a obligé tout le monde à se prosterner devant sa statue, il y a 3 Hébreux qui ont résisté. Et ces 3 Hébreux n'ont pas fléchi le genou devant la statue. Alors le roi les a convoqués, il leur a dit comment ? Si vous ne vous prosternez pas, vous allez être jetés dans la fournaise. Il fait de l'intimidation, il essaie de leur faire peur pour qu'ils se prosternent devant la statue. Et c'est là où leur foi a été prouvée. Devant la fournaise, ils continuent à maintenir, non, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils ont la foi donc devant la fournaise. Mais plus que cela, ils vont être jetés dans la fournaise et ils vont avoir la foi dans la fournaise. Et dans la fournaise, qu'est-ce qui se passe? Il y a un 4e homme qui les rejoint, et le roi dit, mais c'est comme un ange, il est semblable au Fils des dieux. Et en fait, ce quatrième personnage, c'est très probablement une représentation de Jésus qui vient les accompagner déjà. Christ, qui existait avant sa naissance, c'est une préfiguration et qui vient encourager, assister ces 3 croyants dans l'épreuve. Quand nous sommes dans l'épreuve, le Seigneur n'est jamais loin de nous. Peut-être on le voit pas, on le ressent pas, mais il vient. Vous savez, on est un peu comme les disciples d'Emmaüs. Ils avaient vécu cette grande épreuve, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître le Seigneur qui les accompagnait le long du chemin. Nos yeux sont souvent empêchés de le reconnaître, mais il est là. Et puis Daniel, pareil, lorsqu'il a refusé de prier le roi en place, mais qu'il continue à prier son Dieu, alors qu'il y avait eu un décret des Mèdes et des Perses, et qu'il a été jeté dans la fosse aux lions, et lorsqu'on lui a mis, on lui a intimé l'ordre de prier le roi, il a refusé, donc il fallait avoir la foi devant la fosse, mais il a eu la foi dans la fosse. C'est plus facile d'avoir la foi quand vous êtes aux eaux et que les lions sont derrière les barreaux, par exemple, que la foi quand on est dans la cage avec le lion. Parce que quand on est derrière les barreaux, le lion peut crier, il peut rugir, mais vous êtes tranquille, il ne vous atteindra pas. Mais quand vous êtes dans la cage avec le lion, c'est très différent. Et la foi, il nous faut la conserver aussi dans le cœur de l'épreuve, dans le feu de l'épreuve, au moment où on est en grande souffrance, en grande difficulté. On le voit donc partout, la foi, c'est pour les moments exceptionnels, comme David, il a eu la foi devant ce géant Goliath, et il a été à sa rencontre. Je lis ce texte de 1 Pierre chapitre 1 verset 6 pour vous montrer que la foi est nécessairement éprouvée pour qu'elle produise un bon fruit. C'est là ce qui fait votre joie, c'est Pierre qui parle. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est bien marqué au pluriel, il y a des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la gloire, la louange et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Il est bien question de l'épreuve de la foi, qui est nécessaire, qui est indispensable, et dans le texte, même si elle est éprouvée un peu comme l'or est passé au feu, eh bien c'est pour un résultat positif, afin que il y a ce résultat de louange, de gloire et d'honneur lorsque Christ apparaîtra. Donc l'épreuve n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous permettre d'avancer et de sortir de nous quelque chose qui est au fond de nous, mais que nous ne savons pas. Et ça va être travaillé par l'épreuve. Même dans le monde aujourd'hui, avant de mettre sur le marché à la vente des, par exemple, des jouets pour les enfants, prenons l'exemple d'une peluche, elle va être éprouvée, c'est-à-dire on va vérifier que tous les fils sont vraiment solides, donc on va tirer sur ses yeux, on va tirer sur ses mains, sur ses membres, voir si elle ne se déchire pas. Elle va être assez éprouvée, et comme ça, elle va être certifiée conforme. Si elle ne craque pas, si elle n'est pas détruite, elle va pouvoir être mise à la vente. Donc il y a des épreuves. Il y a des épreuves qui sont faites, qui sont nécessaires pour que l'objet soit certifié conforme. Eh bien, dans le domaine spirituel, nous sommes éprouvés pour être rendus conformes à la volonté de Dieu, conformes à Christ lui-même, lui-même qui a été éprouvé dans sa vie, mais qui a marché vraiment par la foi. Personne ne choisit les épreuves. Toutes les épreuves sont différentes. Regardez l'épreuve de cette femme, elle est très dure. Et chacun aura des épreuves, mais différentes les unes des autres, et on ne peut pas se comparer aux autres. Parce qu'en fait, Dieu vous donnera la force pour l'épreuve que vous traversez. Mais ne comparez pas les épreuves des uns et des autres. Parce que chacun, en fait, Dieu donnera la force pour la personne qui traverse l'épreuve en question. Et rappelez-vous toujours que l'épreuve, elle ne dure pas indéfiniment. Dieu a mis un terme à l'épreuve. Nous, notre préoccupation, c'est Dieu, quand est-ce que ça va terminer? Comment tu vas agir? Mais Dieu nous demande simplement de lui faire confiance et de compter sur sa grâce et son secours pendant l'épreuve. Regardez l'histoire de cet homme qui s'appelait Jaïrus, dont la petite fille était mourante. Quelle épreuve, encore difficile. Sa petite fille sur le point de mourir, il se dirige vers Jésus et lui dit « Mais si tu entres sous mon toit, elle sera guérie. » Jésus entend sa prière et il l'accompagne. Sauf que pendant le trajet, une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans arrête Jésus sur le chemin pour qu'il prie pour elle. Jésus le fait, mais ça prend un certain temps. Et de chez la maison de Jaïrus, des gens viennent lui dire « Mais écoute, ce n'est même plus la peine que Jésus vienne jusque chez toi, ta fille est morte. » Et là, c'est l'épreuve de la foi, terrible. Puisqu'il est venu pour sa fille, Jésus a accepté, mais maintenant, ta fille est morte. Il aurait pu être jaloux et se dire, mais Jésus a béni cette femme qu'il a arrêtée dans sa marche alors que Jésus venait chez moi. Cette femme a été guérie et moi, ma fille, elle est morte. Il aurait pu en vouloir à Jésus. Mais Jésus avait aussi un miracle pour lui, il ne le savait pas encore. Mais c'était un miracle plus grand qu'une guérison, c'était une résurrection. Il y avait un miracle pour lui, il y a un miracle pour vous. Ne soyez pas jaloux si Dieu bénit à côté, ou si Dieu bénit une autre personne, et peut-être vous dites « Ah oui, bah lui il est guéri et puis moi je suis toujours malade ». Ne soyez pas jaloux parce que Dieu aussi a son temps, et il y a un miracle qui vous est réservé. Faites confiance au Seigneur. Et Marc 5, 36 dit ceci, lorsqu'on vient dire « la fille est morte », il dit « Jésus, sans tenir compte de ses paroles, c'est-à-dire ta fille est morte, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. » Ça, c'est vraiment l'épreuve de la foi. On apprend une mauvaise nouvelle et le Seigneur nous dit « mais ne crains pas, crois seulement, il y a une solution. » Il est prouvé dans la foi. Et effectivement, en arrivant, Jésus va prier pour cette petite fille qui était décédée, et le miracle va s'opérer et elle va ressusciter des morts. Mais c'est pas facile de faire confiance quand on ne sait pas comment les choses vont tourner. Vous voyez, si Jésus avait dit tout de suite à Jaïrus, bon, t'inquiète pas, je vais aller chez elle, puis je vais la ressusciter, tu vas voir, tout va se passer comme ça. On sait à l'avance les choses. Donc t'inquiète pas, ta fille va mourir, mais finalement je vais la ressusciter. Bon, finalement, j'allais dire que quand on sait les choses à l'avance, on ne vit pas l'épreuve de la même manière, puisqu'on sait comment ça va terminer. Donc on est confiant. Eh bien, le Seigneur nous demande d'avoir confiance sans savoir comment la chose va terminer, mais lui faire confiance sur le fait qu'il va prendre en main la situation. C'est un petit peu comme quand on subit une opération. Ben, à un moment donné, on fait confiance à des gens qu'on ne connaît pas, peut-être un médecin qui va nous opérer, on va être plongé dans le sommeil, on ne va pas savoir ce qui se passe, mais on fait confiance à des gens, et à un moment donné, on abandonne. Bien avec Dieu, nous savons qu'il est encore meilleur que le meilleur des médecins. Il nous faut lui faire confiance et abandonner notre vie à Dieu, en lui disant, bien Seigneur, maintenant, je ne peux plus lutter, je ne m'en sors plus, mais je te fais confiance pour que tu agisses. On a du mal à faire confiance. Mais rappelez-vous ceci, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Peut-être vous avez été déçu parce que quelqu'un vous a trompé ou vous a trahi. Mais Dieu, lui, il ne trahit personne. Il ne vous trompe jamais. Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il s'agit ici de la foi que nous pouvons mettre en Dieu, et il agira. » Sa partie maintenant, c'est faire le miracle. Il agira, c'est plus notre part. Il agira, c'est vraiment l'intervention miraculeuse de Dieu qui change la situation. Notre part, c'est « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta foi, ta confiance, abandonne-lui ta vie. » Mais ne vous chargez pas de faire ce que Dieu va faire. Ça, c'est sa part. Abandonnez-le à Dieu. Il va le faire en son temps. Donc ça, c'était le premier élément. C'est l'épreuve de cette femme. Le deuxième élément, c'est maintenant le petit vase d'huile qui était dans la maison. On voit que Dieu utilise les faibles moyens de tous les jours pour accomplir des miracles. Élisée demande qu'est-ce qu'elle a à la maison. Parce qu'Élisée perçoit déjà que le miracle va prendre place dans cette maison. Par quelque chose d'insignifiant. Et la réponse de cette femme est assez significative d'un esprit négatif. Elle dit, mais moi, je n'ai rien du tout à la maison. Je n'ai rien du tout. Elle commence par dire, il n'y a rien. Il n'y a pas de possibilité, on n'y arrivera pas. Mais si, j'ai juste un petit vase d'huile. Et cette mentalité négative, c'est comme ça qu'elle aborde les choses. Et elle voit d'abord ce qu'elle n'a pas au lieu de voir ce qu'elle a. Et si vous avez une mentalité négative, priez le Seigneur de vous changer cette mentalité afin de commencer à voir les choses que vous avez et que Dieu peut utiliser. C'est pareil avec les 5 pains et les 2 poissons lorsqu'il y avait cette foule et que Jésus dit ben, « Donnez-leur vous-même à manger ». Tout de suite, les disciples voient ce qu'ils n'ont pas. Philippe dit « Mais si on avait même 200 deniers, ça représente 200 jours de salaire, si on avait une somme pareille, ça suffirait même pas pour acheter des pains pour tout le monde. » Donc, ils voient ce qu'ils n'ont pas. André dit, il y a bien un garçon qui est ici, mais il a seulement 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour autant de gens? Ils voient ce qu'ils n'ont pas. Et c'est comme ça que Jésus va les éduquer et dit, ben, apportez-moi le peu que vous avez. Apportez-moi le peu que vous avez. Les 5 pains, les 2 poissons. La part du miracle, c'est Dieu qui va le faire. Notre part, c'est de lui apporter le peu que nous avons. Et lui, il s'occupe de multiplier. Et il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons pour la foule qui était rassemblée. Cette femme, donc, dit « Je n'ai qu'un vase ». Elle ne s'imagine même pas que Dieu peut faire quelque chose avec ce vase. Il y a un peu d'huile dedans. Mais ça sera le départ du miracle. En fait, sans Dieu, ça reste un vase insignifiant qui n'a plus de valeur puisqu'il est presque vide. Mais avec Dieu, le Dieu du miracle, ce petit vase, va être une source de provision qui ne s'épuise pas. C'est ça, l'intervention de Dieu. Il prend quelque chose, peut-être de cassé, d'abîmé, de peu de valeur, et grâce à sa bénédiction, à sa souveraineté, à sa puissance, eh bien, il le multiplie. Dieu, en fait, n'avait même pas besoin de quoi que ce soit. Il aurait pu faire un miracle directement sans avoir besoin d'un petit vase. Bien sûr, il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, mais il aime nous faire participer par nos petites choses. Un petit peu comme quand il y a eu ce mariage à Cana et qu'ils ont manqué de vin. Eh bien, Jésus a demandé « Remplissez d'eau ces jarres ». Et il a utilisé de l'eau. C'est très courant, l'eau, c'était facile à trouver. Et il a prié pour que cette eau soit changée en vin. Mais il est parti d'un élément assez simple qu'on a tous à la maison, c'est de l'eau. Et cette eau, après, est devenue du vin. Ça, c'est la part de Dieu, c'est le miracle qui s'opère. C'est maintenant l'intervention divine qui change les choses. Alors on ne peut même pas imaginer tout ce que Dieu peut faire avec nos petits moyens. Parce que nos yeux sont souvent dirigés vers ce qui est petit, notre vision est limitée. Mes frères et sœurs, plus nous allons passer du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va nous communiquer sa vision et nous élargir la nôtre. Notre vision étriquée va s'ouvrir et on va commencer à voir le petit vase. Et ce petit vase, qu'est-ce que Dieu peut faire avec? Et on va commencer à raisonner différemment et se dire, mais si je le donne à Dieu, Dieu est capable de le multiplier et de faire quelque chose avec ce petit vase. Cette femme, donc, avait besoin de passer du stade où elle ne voyait rien, où elle considérait que elle n'avait rien dans sa maison pour faire quoi que ce soit, a une autre vision du petit vase que Dieu peut utiliser pour le multiplier pour sa gloire. Ensuite, le troisième élément que je voulais mentionner, c'est la nécessité des vases vides. Car Dieu va tester la foi de cette femme dans la quantité de vases qu'elle va prendre, puisqu'elle a une promesse que Dieu va multiplier, lui, les remplir des vases. Mais elle ne sait pas combien. Et c'est là où nous avons notre part à faire, notre initiative. Parce que si elle avait demandé que deux vases, par exemple, peut-être trois à ses voisins, eh bien, Dieu n'aurait rempli que trois vases. Si elle en avait demandé 10, eh bien, Dieu aurait rempli les 10 vases. Et si elle en demandait 50, Dieu remplit les 50 vases. Donc, c'était maintenant sa part de foi. C'était maintenant sa part de confiance dans le plan de Dieu et à elle de déterminer la quantité. Alors, bien sûr, quand elle raisonne avec sa tête et qu'elle voit le petit vase d'huile qu'elle a et qu'elle se dit « Mais comment vais-je faire pour remplir tous ces vases avec mon petit vase d'huile ?» Avec la tête, ça ne fonctionne pas. Il faut à un moment donné avoir la foi du cœur et de dire « Seigneur, tu peux le faire ». C'est ce qu'à un moment donné, elle a fait. Donc, ses enfants ont pris des vases. Mais voyez, nous, on ne doit pas s'occuper de comment Dieu va faire le miracle. Nous, notre part, c'est de préparer les choses pour que le miracle prenne place. Mais notre problème, ce n'est pas le miracle. Ça, c'est le problème de Dieu. Alors, ne nous chargeons pas des problèmes de Dieu. C'est des problèmes trop importants. Occupons-nous de nos problèmes à nous, qui sont limités, qui sont à notre portée. Faisons ce que nous pouvons, mais ce qui est trop lourd à porter, laissons-le au Seigneur. Et lui, il accomplira en son temps. On voit aussi l'humilité d'Élisée, toujours, parce qu'il a été humble au service d'Élie, mais il est resté humble par la suite. C'est très important, quand on est dans un service, de ne pas avoir la grosse tête et de se croire pour quelqu'un d'arrivé d'important. Il est resté humble parce qu'il dit à la femme, « Tu fermeras la porte sur toi au moment où tu verseras l'huile dans les vases. » C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il s'efface et il laisse cette femme avec son Dieu pour que le miracle prenne place. Et lui se retire. Et ça, c'est important de ne pas se mettre en avant, de ne pas attirer les gens à nous, mais de les mettre en connexion avec Dieu. Et c'est Dieu qui fait le miracle. Et on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait et non pas pour un homme. Donc, il a bien compris que la gloire ne lui revient pas, mais que toute la gloire revient à Dieu. Et ça, c'est un élément important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens attirent des foules à eux, mais c'est pour leur propre gloire, pour leur propre nom. Or, Élisée, nous voyons bien qu'il s'efface pour rendre toute la gloire au Dieu du miracle. Dieu répond donc à la foi de cette femme. Il a rempli, donc elle a commencé à verser dans le premier, il a été plein, le deuxième, et en fait, Dieu a rempli autant de vases qu'il y avait dans la maison. On voit aussi dans le Nouveau Testament que Jésus répondait à la foi des personnes. C'est pourquoi il disait « qu'il te soit fait selon ta foi ». Eh bien, on peut dire que pour elle, il a été fait selon sa foi. On peut dire que du côté de Dieu, il y a une provision infinie, c'est-à-dire que l'huile coulait, de manière indéterminée, mais que nous venons avec notre foi et Dieu répond à la foi. Mais regardez du côté de Dieu, Éphésiens 3:20, voyez. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Regardez vers Dieu, la provision, elle est infinie. Il n'a pas de limite, il peut tout faire. Et c'est comme ça que quand nous venons dans la prière, frères et sœurs, ayons cette vision de Dieu qui peut tout, qui est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est tout puissant, il est vainqueur sur la maladie, il a toute la puissance pour nous délivrer de toutes les attaques et même des situations financières compliquées, le Seigneur est fidèle. Tant qu'il y avait des vases vides, donc Dieu les remplissait, et le texte dit « jusqu'au dernier vase ». Et la femme a eu une remarque, elle dit « donne-moi encore un vase » parce que l'huile continue à couler. Mais il n'y en avait plus. Et donc, pile, l'huile s'est arrêtée dans le dernier vase. Il n'y a pas eu de gâchis. Ça s'est arrêté comme il fallait. Mais s'il y avait eu un vase de plus, et il aurait eu aussi sa portion d'huile. Donc finalement, elle a reçu, pour la portion de foi qu'elle avait exercée, le nombre de vases qu'elle avait ramassés, et finalement, elle a obtenu son miracle. Si Dieu a rempli des vases d'huile, ben, il peut le faire encore aujourd'hui, parce que nous sommes un peu comme des vases. Si Dieu a rempli ces vases vides, nous, nous sommes des vases vides. Nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Si nous venons à Jésus avec nos vies qui sont vides, eh bien, nous pouvons nous attendre à être remplis de sa présence. Et c'est ça qui va changer la chose. Si votre vie est vide, il vous manque quelque chose, eh bien, offrez-la à Dieu qui va remplir votre cœur de sa présence. Et puis, petit à petit, vous aurez besoin d'être à nouveau rempli. Comme je disais, du côté de Dieu, c'est infini. Et comme notre cœur se vide, eh bien, il faut à nouveau qu'il soit rempli. Vous voyez, c'est un peu comme les batteries la batterie du téléphone portable. Elle se décharge petit à petit. Et si on ne veille pas, elle peut arriver à zéro et il n'y a plus de communication possible. Et donc, en la rechargeant régulièrement, elle revient à 100%. Eh bien, c'est un petit peu pour nous la même chose. Nous devons être rechargés constamment dans la présence de Dieu, c'est-à-dire apporter notre vie au Seigneur pour être rempli du Saint-Esprit. Dieu est toujours disposé à nous remplir du Saint-Esprit. Dieu est toujours disposé à nous accorder ses dons, sa grâce. Mais Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Donc Dieu est disposé à donner, mais il cherche des cœurs qui ont soif. Le terme grec dit, brûler de zèle pour les dons spirituels. Aspirez, recherchez. On va conclure. La somme récoltée, donc elle a pu vendre toute cette huile pour elle, pour sa famille, pour payer ses dettes. Et le texte dit, elle a pu vivre avec même l'argent qui restait au-delà des dettes, donc elle a pu encore vivre avec cet argent au-delà. Le texte dit dans Psaume 34, verset 11, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » La bénédiction, c'est pour ceux qui cherchent l'Éternel, comme cette femme. Comme cette femme, donc faites confiance à Dieu, suivez ses directives, obéissez s'il vous demande quelque chose. Là, il fallait demander à ses voisins des vases vides. Donc elle l'a fait, ce n'était pas très logique sur le plan humain, mais elle l'a fait par la foi. Et Dieu a honoré sa foi. C'était bien la volonté de Dieu. Alors, il s'agit de discerner la volonté de Dieu pour notre vie, parce que Dieu ne va pas vous demander nécessairement la même chose que cette femme. Il a demandé à cette femme des vases vides, mais peut-être il va vous demander autre chose. C'est à vous de lui apporter ce qu'il veut. Chaque épreuve est différente. Chaque chose que Dieu nous demande est différente des autres, donc il ne faut pas se comparer. Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde, par contre il demande toujours la foi. Le faire dans la foi et croire que Dieu va agir. On va prier quelques instants. Merci encore pour l'exemple de cette femme. Nous voyons combien elle a cru, malgré sa situation où les impossibilités étaient flagrantes, où il n'y avait pas d'issue pour payer ses dettes, où ses enfants étaient menacés de devenir des esclaves, où son mari même était décédé. Et nous prions, nous réalisons, Seigneur, combien elle a mis le peu de choses qu'elle avait chez elle entre tes mains, et que tu es tout puissant pour faire le miracle à partir de ce peu de choses. Seigneur, nous voulons croire ce matin dans le Dieu du miracle, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui ouvre des portes fermées, le Dieu qui transforme des situations bloquées, le Dieu qui ne change pas, qui a toujours des solutions que nous n'imaginons pas, qui fait même au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, pardonne-nous pour notre incrédulité, pour notre manque de foi, pour notre vision si petite comme cette femme où nous disons « Mais je n'ai rien à la maison, je ne peux rien faire, je n'ai aucun moyen d'agir. » Alors que nous avons peut-être une petite chose que nous pouvons faire pour le Seigneur ou que nous pouvons mettre à disposition du Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir comme cette femme ce petit vase, cette petite chose que nous pouvons mettre entre tes mains et nous te faisons confiance pour le reste. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. À toi toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on termine par une prière collective. J'ai eu cette pensée tout à l'heure de ces vases. Nous sommes un peu comme des vases. vides. Et nous pouvons demander au Seigneur de nous remplir. Peut-être on pourrait se lever tous ensemble dans la présence de Dieu. Je vais inviter le groupe musical, le groupe de louanges à venir. Pendant que nous prions tous ensemble, et le sens de cette prière, c'est de demander à Dieu de nous remplir de son esprit et de nous utiliser pour sa gloire. Venons au Seigneur comme des vases vides, reconnaissant que nous avons besoin de sa présence, de son onction et du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que ce qui va combler votre cœur, ce n'est pas dans les choses de ce monde, peut-être les biens matériels que vous avez accumulés ou le travail que vous avez obtenu, et gloire à Dieu pour ces choses. Mais si vous voulez avoir une vie comblée et une vie remplie de Dieu, c'est autre chose, c'est dans la présence de Dieu et c'est dans cette soif et cette attente à être rempli et visité. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble pour terminer ce culte ? Alléluia Seigneur, merci pour ta présence, pour ton esprit, pour ton onction. Nous venons comme ces vases vides, mais nous avons faim et soif de cette plénitude d'en haut, de cette visitation du Saint-Esprit, de cette bénédiction qu'il y a dans ta présence. Oh, viens nous renouveler ce matin, viens nous vivifier, viens nous visiter par l'action puissante de ton esprit et accorde-nous ce renouvellement, Seigneur, ce matin. Oh oui, nous pouvons dire, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Oh, remplis nos vies ce matin, remplis nos cœurs de ta présence. Enlève tout fardeau, toute difficulté. Nous te confions nos faibles moyens, Seigneur. Nous te confions nos vases vides et nous prions pour que tu les remplisses avec abondance. Oui, toi qui multiplies, toi qui pourvois, toi qui fais grâce, prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Dirige-nous plus proche de ton cœur, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, amen. Amen.